Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui dans Le Coq Chante, nous allons parler de la sylviculture dans les régions de France. Et pour cela, nous allons à l'Assemblée Générale Annuelle de la coopérative Unisylva au pôle de Lanneau à Boisseuil, à une petite dizaine de kilomètres de Limoges en Haute-Vienne.
Chers voyageurs, bonjour et bienvenue chez Intercité. Nous sommes ravis de vous accueillir à bord de ce train à destination de Brive-la-Gaillarde, sa destination finale arrivée prévue à 12h30. Il dessert les gares de Vierzon, Châteauroux, La Souterraine, Limoges et Uzerche.
Pour un tel trajet, il faut quitter Paris de bon matin, car il faut plus de 3 heures pour arriver en gare de Limoges, les Bénédictins, ce qui nous laisse le temps de vous parler de cette activité forestière et de ses principaux acteurs. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une forêt ? Ce qu'on appelle une forêt, c'est un territoire occupant une superficie d'au moins un demi-hectare avec des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité, un couvert boisé de plus de 10% et une largeur moyenne d'au moins 20 mètres. Maintenant, quelle est la situation en France ? Selon les chiffres officiels, la forêt en France métropolitaine couvre 17 millions d'hectares, soit 170 000 km². Cela correspond à un taux de boisement de 29,7% du territoire. Elle comprend 136 espèces d'arbres. Donc que les activités économiques remontent très loin dans l'histoire. Globalement, on dénombre environ 35 métiers pour la seule filière bois-forêt.
Voilà, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons mener nos travaux d'Assemblée Générale.
À Boisseuil, notre premier interlocuteur se nomme Bertrand Servois. Il est président de la coopérative Unisylva qui travaille dans un vaste ensemble comprenant des régions comme le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne et le Centre.
Le mouvement de regroupement des forestiers, ça a commencé dans les années 1900. Et puis progressivement, entre 1900 et la guerre, il y a eu des organisations de ventes groupées. Ventes groupées, ça veut dire qu'on met en commun des lots de bois à vendre pour les industries, pour les entrepreneurs, pour l'utilisation de la construction, du bois énergie, etc. Ce mouvement coopératif s'est vraiment organisé après la guerre, dans les années 60. Et Unisylva est le regroupement de 6 coopératives qui existaient, dont les plus anciennes ont été créées en 1963. Et Unisylva est née en 2013 et j'en suis le président depuis maintenant 4 ans.
Alors, ne vous étonnez pas, Monsieur le Président, si je vous pose des questions de profane. Qu'est-ce qui constitue la forêt en France ? Parce que de Limoges jusqu'ici, moi, j'ai regardé, il y a une grande variété d'arbres.
Il y a 17 millions d'hectares de forêt en France. Les deux tiers appartiennent à des propriétaires privés. Et un tiers à l'État, via, et c'est géré ça par l'ONF. Et ces forêts privées, ça va du sud de la France, la forêt méditerranéenne, donc qui n'est pas très productive, mais vous avez des pins d'Alep, vous avez à l'ouest du pin maritime, jusque dans les forêts du nord, où on trouve également beaucoup de peupliers. Et tout le grand centre de la France, vous avez du chêne, c'est le roi de tous les arbres dans les pays tempérés. C'est avec ça qu'on fait les très belles constructions, du très beau mobilier, et aujourd'hui, avec ça qu'on fait les tonneaux pour le vin.
Alors, tout à l'heure, j'ai entendu deux mots qui m'ont interpellé. Il y a eu d'autres mots, mais on va commencer par celui-ci. Vous avez parlé des résineux et des feuillus.
Alors, toujours dans les pays tempérés, on a deux types d'arbres. Ce qu'on appelle les résineux, ce sont des arbres qui gardent leurs feuilles toute l'année. Ce sont des feuilles qu'on appelle des aiguilles.
Ah, par exemple, le pin ou le sapin, nous, on pense que c'est des aiguilles, mais c'est des feuilles.
Alors, on les appelle en français des aiguilles, mais en fait, ce sont des feuilles, mais qui ont été réduites à la taille d'une aiguille. Ceux-là, ils gardent leurs feuilles toute l'année, ou plus exactement, ils les perdent, mais régulièrement.
Ah, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, et nous, on ne les voit pas, on pense que c'est...
Exactement. Et l'autre catégorie, ce qu'on appelle les feuillus, Ce sont des arbres qui ont des feuilles pendant la bonne saison, c'est-à-dire du printemps à l'automne, et qui perdent leurs feuilles l'hiver quand il fait froid et quand il n'y a pas assez de luminosité.
Qu'est-ce que vous appelez une forêt productive ?
Une forêt productive, vous savez, c'est comme un champ de blé, de maïs ou de mil, c'est pareil. Il faut planter au bon moment, il faut accompagner ça, désherber s'il faut désherber, apporter de l'engrais, et puis on récolte le grain à la fin de l'année. Eh bien, pour une forêt, c'est pareil.
Mais là, il y a une difficulté, parce que tous les arbres ne poussent pas au même rythme. Il y en a qui peuvent atteindre 100 ans, d'autres pas. Comment je fais pour gérer ça, moi, dans une forêt ?
Il y a un exemple, ce sont les peupliers. Les peupliers, dans notre pays, ils poussent entre 15 et 20 ans. Et quand on les récolte, l'année suivante, on prépare le terrain et on replante de nouveaux peupliers qui vont pousser, et 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on va les récolter. À l'inverse, les chênes, dans la forêt privée, on estime que le bon âge pour les récolter, c'est de l'ordre de 120 ans.
Ah donc, ça veut dire que, par exemple, le chêne que je coupe aujourd'hui, c'est mon grand-père qui l'a planté, mon père qui l'a entretenu, moi aussi.
Oui, et puis avant de le couper, je fais attention qu'il ait des successeurs, soit par régénération naturelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des glands qui sont tombés, qui ont germé.
Donc, les glands, c'est le fruit du chêne.
Le fruit du chêne. Et donc, une fois qu'il y a des petits chênes qui sont en dessous, on peut retirer le gros arbre. Et c'est parti pour 120 ans.
Bah, si je coupe, par exemple, celui qui pousse à 15 ans, je le coupe aujourd'hui, je vends.
Oui.
Et je replante, il faut que j'attende 15 ans, mais pendant ces 15 ans, je vis de quoi ?
Ah ben, c'est là où toute l'organisation de la gestion d'une forêt, c'est-à-dire une parcelle, une année, elle sera en coupée, en peuplier, l'année suivante, on a quelques travaux et des investissements à faire, et puis une autre parcelle suivra dans 5 ans, une autre dans 10 ans, etc. L'important, c'est que chaque génération ait des revenus avec sa forêt.
Ah, c'est pour ça que quand je regarde, par exemple, les plantations, là, j'ai l'impression que c'est des lots.
Vous en avez un peu de tous les âges et pas tous au même moment. Donc toute notre gestion, c'est cette préoccupation d'une gestion durable, dans le temps, en qualité, en quantité, en espérant qu'on saura utiliser correctement ces bois-là dans 10, 20, 30, 50 ou 100 ans.
Mais en dépit de tous ces problèmes que vous venez de décrire, Monsieur le Président, vous nous avez dit que depuis un certain nombre d'années, la France ne déboise plus, mais plutôt accroît sa superficie de forêt.
Je vous donne un exemple. Depuis 1830, la forêt française a doublé de taille, malgré la croissance des villes, la création des autoroutes, des supermarchés, des je ne sais pas quoi. Ça augmente régulièrement et elle est de plus en plus productive et elle est de mieux en mieux gérée. Mais il y a toujours des améliorations à faire.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, Unisilva, c'est 12 200 exploitants forestiers adhérents, 360 000 hectares de forêt gérés, 900 000 mètres cubes de bois commercialisés, 800 usines clientes, 129 salariés directs répartis sur 16 agences et bureaux de proximité. Pour compliquer davantage les choses, rappelons que le massif forestier français, c'est 136 espèces d'arbres. Et chaque espèce a ses spécificités et un mode de gestion particulier. Gilles de Boncourt est directeur de la coopérative Unisilva.
Alors Unisilva, la mission d'Unisilva, c'est trois choses. C'est réunir d'abord 12 000 propriétaires forestiers ensemble, parce qu'à 12 000, on est beaucoup plus fort que tout seul. C'est ça le principe. C'est apporter un service de gestion aux propriétaires forestiers qui en ont besoin. C'est faire tous les travaux qu'on a à faire dans les forêts. Et puis, c'est valoriser les produits des forêts. Et les produits des forêts, c'est essentiellement le bois.
Ça veut dire que moi, planteur, moi, sylviculteur, dans ma propriété, j'ai besoin d'un encadrement technique.
C'est là qu'on intervient. Pourquoi ? Parce qu'un propriétaire forestier, ça n'est pas un professionnel. Et pouvoir bénéficier d'un service professionnel qui en plus lui appartient, parce qu'on est une coopérative, ça lui permet d'être beaucoup plus performant et surtout de pouvoir marier la nature, qui est un écosystème complètement équilibré, avec la production. Il faut respecter cet écosystème équilibré pour produire des arbres.
Alors, votre travail de forestier, ça commence par la plantation ?
Pourquoi est-ce qu'on plante ? On plante lorsque c'est nécessaire. On peut planter, je vous donne un exemple, face au réchauffement climatique, il faut peut-être aller chercher des espèces dont le patrimoine génétique est différent et qui auront un patrimoine génétique qui va nous permettre de résister mieux à des périodes de sécheresse ou des chaleurs plus fortes. Et dans ces cas-là, il faut changer de patrimoine génétique. On peut garder les mêmes essences, on peut garder les mêmes chênes, par exemple, on peut garder les mêmes résineux, épicéa ou douglas, mais on va aller chercher dans ces arbres-là ceux qui ont un patrimoine génétique plus adapté au réchauffement climatique.
D'accord. Là, on voit que vous défendez bien l'arbre. Et moi-même, je commence à être converti à votre opinion. Mais voilà, je suis sylviculteur. Je veux adhérer à Unisilva. Comment je fais ?
C'est très simple. Vous décrochez votre téléphone, vous nous appelez, un forestier va venir chez vous, discuter avec vous. Et si vous trouvez que le forestier correspond à vos valeurs et vous apporte la technique nécessaire, ben vous allez adhérer à la coopérative, vous devenez actionnaire de la coopérative, vous prenez des parts dans la coopérative. Ça coûte 10 euros par tranche de 10 hectares et vous devenez actionnaire de la coopérative.
Comment tout cela est organisé ? Parce que moi, je pensais qu'en venant, j'allais trouver tout le monde, tous les forestiers de France ici. Ah. On me dit non, il y a la Vienne, il y a d'autres régions encore.
Alors, une coopérative, elle est agréée sur un territoire sur lequel elle va pouvoir travailler.
Ah, donc une coopérative est liée à un territoire ?
Absolument, elle est liée à un territoire et aux habitants de ce territoire. Dans notre cas, ben, notre territoire, c'est le Limousin, c'est l'Auvergne, c'est la Bourgogne et c'est le centre. Et là, on a 12 000 adhérents, 12 000 propriétaires forestiers qui nous constituent et qui possèdent 360 000 hectares de forêt.
Ah, ça veut dire qu'il y a Unisilva à d'autres sous-sections ailleurs.
Ah oui, on est présent dans 18 départements, on a 18 bureaux.
Ah, vous appelez ça des bureaux ?
Dans chaque département, on a des bureaux avec des forestiers qui sont au service des adhérents du département.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous présentiez les chiffres 2018, vous aviez le sourire ?
Oui, j'ai le sourire parce que chaque année, il y a de plus en plus d'adhérents et de propriétaires forestiers qui nous rejoignent, ce qui veut dire que notre formule est la bonne.
Je vous remercie.
Et moi aussi, je suis heureux de faire votre connaissance.
En dépit de la haute taille et du volume des sujets plantés, il s'agit tout de même de production agricole. Et le travail commence par la plantation, l'entretien et la collecte des principaux produits. En un mot, un mode de gestion forestière rationalisé. Le problème, c'est qu'un propriétaire terrien tout seul dans son exploitation ne peut pas faire face, surtout quand on pense aux effets des bouleversements du climat et des écosystèmes. Damien Chanu est technicien forestier à Unisilva depuis 19 ans maintenant.
J'ai pratiqué les trois activités, hein, donc l'activité gestion, l'activité sylviculture et l'activité exploitation.
Et là, donc vous êtes technicien, vous intervenez chez l'exploitant.
Voilà, donc et au jour d'aujourd'hui, donc je suis devenu responsable du pôle exploitation Limousin. Donc il y a 9 techniciens qui sont spécialisés dans l'exploitation forestière, hein, les éclaircies, les coupes rases, dans le résineux, dans le feuillu. Et je manage un peu ces 9 personnes. Voilà. Et on travaille donc pour des propriétaires privés, pour des adhérents. Voilà.
Là, vous m'intéressez à plus d'un titre parce qu'il y a eu beaucoup de mots savants tout à l'heure. Voilà. On a parlé d'éclaircie. C'est quoi ça ?
Voilà. Donc l'éclaircie, c'est une coupe d'amélioration. On fait une plantation assez dense dans les premières années. C'est-à-dire on plante 3 mètres entre les lignes, 2,50 mètres entre les plants. Ça nous fait 1200 à 1300 plants à l'hectare. Et au bout de 20 ans, on intervient dans le peuplement pour en extraire un tiers.
C'est-à-dire les plus faibles, les chétifs, les boiteux.
Voilà, donc ce sont des bois qui sont marqués au préalable par le technicien forestier. Hein. C'est le rôle du technicien forestier de marquer des arbres à extraire.
Ah, c'est les troncs où on voit des croix, là ?
Voilà, ce sont des troncs, comme vous dites, donc des arbres où on met un trait de peinture. Et quand la machine, la batteuse, intervient dans le peuplement, elle sait quel arbre il faut extraire. Donc en première éclaircie, on extrait environ un tiers du peuplement, un tiers des tiges plantées initialement. On intervient, en fonction de l'évolution du peuplement, du développement du peuplement, on intervient 3 fois dans l'éclaircie, quoi. Voilà. Enfin, dans le peuplement, jusqu'à la coupe définitive. Voilà.
Mais pourquoi vous faites ces éclaircies ?
Ben, c'est pour, en fait, on cible les arbres d'avenir. C'est-à-dire, à la fin, à la coupe rase, on n'a plus que des arbres de qualité.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une compétition pour l'eau, l'air et l'espace.
Il y a une compétition entre les arbres sur le terrain, effectivement.
Donc voilà. Vous privilégiez
les plus beaux sujets que l'on conservera jusqu'à la fin du peuplement. On enlève tous les bois de deuxième à troisième choix.
Qu'est-ce que vous appelez les plus beaux sujets, les plus rentables quoi?
Alors, ce sont des arbres bien conformés, avec une densité de branches la plus faible possible, des arbres droits et sans défaut. Voilà, sans défaut, c'est-à-dire des arbres droits, des arbres cylindriques, que l'on voit et qu'on souhaite emmener jusqu'à la fin du peuplement, jusqu'à la coupe définitive. Voilà. Tous les arbres petits, tordus, branchus, tous ces arbres-là sont enlevés durant les trois éclaircies. Ça, c'est pour un peuplement résineux, bien sûr. Et on peut travailler également dans le Douglas, en résineux essentiellement en Limousin, mais également dans le chêne, notamment dans les régions alliées, dans le centre, etc., en régénération naturelle. Donc là, on travaille avec des arbres qui sont déjà en place, donc des semenciers, on appelle ça des semenciers.
À ces semenciers, vous les sélectionnez parce qu'ils sont donc, des beaux sujets, comme
voilà,
vous dites.
La même chose, on sélectionne les plus beaux sujets, on travaille autour de ces beaux sujets, on extrait des arbres de plus mauvaise qualité autour de ces arbres-là, pour créer des puits de lumière, qu'on appelle, de manière à ce que les beaux sujets ensemencent ces zones, du coup, libérées.
Mais pourquoi il a besoin de cette lumière?
Parce que les semis ont besoin de la lumière pour se développer.
Attendez, je vais essayer de valider. C'est-à-dire que voilà, vous avez repéré, vous techniciens, vous avez repéré ce que vous appelez beaux sujets. Et vous vous dites que ces graines ont plus de chances de donner des beaux sujets, oui, que les graines des maigrichons, et vous les favorisez par ce travail-là.
Voilà, donc en fait, on veut que les beaux sujets présents initialement se développent, se régénèrent sur le peuplement. Donc c'est pour ça qu'on extrait tous les arbres secondaires. Notre souhait, ce n'est pas de faire régénérer les mauvais, mais plutôt les plus beaux, quoi.
Mais vous avez dit que le bois... Comment vous avez appelé là? Les bois d'éclaircies là, à un usage, vous ne les jetez pas, ils servent à quelque chose.
Donc, les bois d'éclaircies, les bois récoltés en coupe d'amélioration, hein, en première, deuxième ou troisième éclaircie, en fonction de l'âge du peuplement, ce sont des bois qui sont récoltés et qui sont utilisés. Donc vous avez trois grands types, hein, de catégories, de choix. Vous avez le choix 1, plutôt des bois qui sont utilisés à faire de la charpente. Donc choix 1. Le choix 2, plutôt des bois utilisés pour faire de la palette. Et le choix 3, plutôt du bois d'industrie, on a plutôt du bois destiné à faire de la pâte à papier ou des panneaux de particules. On essaie de valoriser au maximum l'arbre. Donc si les premiers mètres de 3, 4 à 6 mètres sont propres de qualité, à densité de branches fines, on va le valoriser. Donc on va faire de la charpente, du choix 1. Si ce même type de bois est branchu et légèrement tordu, on va en faire du choix 2, de la palette. Et tout ce qui est tête, c'est destiné à faire de la papeterie.
Tête, c'est à partir du moment où les branches s'écartent, là.
Voilà, c'est ça. Voilà, le houppier, on appelle ça le houppier.
Alors là, moi, je vais vous poser une dernière question. Oui. Vous êtes une petite dizaine ou une centaine de techniciens.
Oui.
Et il y a des milliers de propriétaires.
Oui.
Comment vous arrivez à satisfaire tous ces gens?
Alors, l'organisation. L'organisation, c'est une multitude des choses, hein. C'est tenir informés les propriétaires, c'est tenir informés les communes, c'est dès qu'on fait un dégât, ben, on tient informer les personnes, enfin on, voilà, c'est de la communication en permanence.
Je vous remercie.
Très bien, merci beaucoup.
Bon, merci.
Ravi de vous avoir revu. Oui,
d'accord. Nous étions en compagnie des responsables et des techniciens de la coopérative forestière Unisilva à l'occasion de leur assemblée générale annuelle au pôle de l'Anneau à Boisseuil, à une petite dizaine de kilomètres de Limoges en Haute-Vienne. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Pauline Leduc, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Enfin, pour ceux qui veulent écouter cette émission sur leur téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.